pas une chercheuse orientale. J'ai réduit totalement cette
étude. Moi, c'est ce que vous m'avez dit au cas d'engage. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, de maîtrise du temps, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'avoir choisi Radio Capi qui vous propose parole aux auditeurs. La délégation syndicale de la cimenterie nationale SINAP s'inquiète du sort de cette entreprise à l'arrêt depuis plus de 5 ans et ses agents impayés depuis 7 ans. Elle indique que cette situation s'explique par l'absence d'un financement suffisant pour l'acquisition des équipements et d'infrastructures supplémentaires nécessaires pour son fonctionnement. Cette affaire relance les débats sur la question relative à la relance du partenariat public-privé annoncé par les gouvernements, qui serait l'idéal pour pallier les difficultés que traverse actuellement cette entreprise. Comment commentez-vous cette actualité? 081-890-6340, c'est le numéro d'appel. Si vous avez besoin de nous joindre en direct dans ces magazines, mise en monde par du Manzangou, Julie Fesa sur le standard, Jérôme est à la réalisation et la coordination, et Pierrot et la Mégie vous les présente sous la supervision de Martin. C'est Boujango fidèle, les auditeurs, bienvenue à tous.
Votre radio vous propose chaque après-midi, du lundi au vendredi, 3 heures de découverte. De 13h à 16h, partez à la découverte de recettes des femmes et des jeunes qui se distinguent. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants, regard d'avenir et point de vue des jeunes. Laissez-vous guider par des balades en zigzag, un veste de culture et beaucoup de musique. Nous répondons également à vos questions. 13h, 16h, découverte, le cocktail de l'après-midi sur Radio Okapi.
Comment arriver à relancer la cimenterie nationale, SINAP, qui connaît des difficultés, nous l'avons dit tout à l'heure en introduction. Depuis plus de 5 ans, l'entreprise est à l'arrêt et les agents, la conséquence est que les agents sont restés impayés depuis plus de 7 ans, un plaidoyer de la délégation syndicale. Alors beaucoup d'auditeurs, beaucoup d'observateurs estiment qu'on peut arriver à relancer cette entreprise dans les partenariats publics et privés, si c'est possible. En ce moment aujourd'hui, avec ce qui a été déjà initié, les difficultés rencontrées par la SINAP ainsi que les pistes et des solutions pour relancer l'entreprise, c'est au centre de notre échange avec vous dans cette émission Parole aux auditeurs. Nous avons associé à cet échange Monsieur Djadjakoy, qui est directeur d'exploitation de la SINAP. Monsieur Djadjakoy, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, et merci pour m'avoir donné cette opportunité.
Merci d'avoir aussi accepté de partager avec les auditeurs les pistes et des solutions pour la relance de la SINAP. Pourriez-vous nous parler en bref de la SINAP, nous dresser un petit tableau de la SINAP pour permettre aux auditeurs de comprendre c'est quoi la SINAP jusqu'à ce jour.
Merci, monsieur le journaliste. Ici, je parle au nom du DG qui est empêché. Je suis directeur d'exploitation, comme vous avez dit. En fait, la cimenterie nationale, qui s'appelle SINAP en sigle, c'est une société anonyme, régie par l'art uniforme de l'OATA, relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêts économiques, et de tout texte ultérieur, complémentaire ou modificatif, et par les statuts. Elle a pour objet, dans le cadre de l'exploitation du marché local et d'exploitation, la fabrication et le commerce de ciment, chaud, de briques et de tous autres produits servant la production en République démocratique du Congo ou à l'étranger. Son siège social est établi à Kinshasa, au numéro 54-06 de la 12e rue Quartier Industriel dans la commune de Limité. Et son siège d'exploitation où je me trouve est établi à Kinshasa, territoire de Songololo, province du Congo central. C'est une entreprise d'économie mixte. Pour cette économie mixte, le capital social est réparti entre la République démocratique du Congo qui est à 91,17%, c'est l'actionnaire majoritaire, le groupe Raoji qui est à 7,5% et Peter Rouge qui est à 0,8%. En ce qui concerne la création de cette société, la SINAP, le projet cimenterie national fut initié en mars 1969 par le président Mobutu, lors de son premier voyage en Allemagne. Les premières négociations ont eu lieu en février 1970 à Kinshasa, entre les autorités compétentes de la République du Zaïre à l'époque et les représentants de la firme Klöckner, qui était en fait l'unique soumissionnaire à ce projet-là.
Mm-hmm.
Au terme de ces négociations, il y a eu un contrat de fourniture clé en main, une cimenterie pour la production de 1000 tonnes de ciment par jour, c'est-à-dire 300 000 tonnes par an, qui est la capacité installée. Ce contrat de fourniture a été signé le 9 juin 1970. En octobre, donc le 24 octobre 1970, la société mixte qui s'appelait Cimenterie Nationale, CARL à ce moment-là, elle a été créée avec 51% des actions pour la République du Zaïre à l'époque et 49% pour le groupe Klöckner qui était à la fois fournisseur et partenaire. Donc, l'exécution de ce contrat-là de fourniture, il est entré en vigueur le 1er octobre 1971. Lors de la pose de la première pierre, qui a eu lieu le 30 novembre 1971, les travaux de construction de l'usine, en fait, ont débuté en février 1972 pour s'achever en mai 1974. Et en septembre 1974, la FINAP a sorti sa première tonne de ciment. Donc voilà un peu, en gros, mm-hmm. la carte de visite de la cimenterie nationale.
Mm-hmm. Mais alors, on sait aujourd'hui qu'il y a 5 ans que la société est à l'arrêt, n'arrive pas à produire le ciment, à faire son travail comme il faut. Les difficultés ont commencé à quel niveau, monsieur Diadakoy?
Si nous pouvons parler des difficultés, en fait, nous avons des origines lointaines et nous avons des origines actuelles. Au départ, quand la FINAP fut créée et quand elle a été remise clé en main à la République du Zaïre à cette époque-là, donc la République démocratique du Congo en ce moment-ci, il s'est posé un problème d'abord. Il y a eu un aspect financier.
Mm-hmm.
On a remis la FINAP entre les mains de l'État congolais, mais on n'a pas pensé en ce moment-là à mettre avec cette remise-là un fonds de roulement nécessaire pour pouvoir démarrer l'usine.
Mm-hmm.
Donc, dès le départ, en fait, il y a eu une entorse. Le fait qu'il n'avait pas un fonds de démarrage, un fonds de roulement, qu'est-ce qui s'est passé? Dès le démarrage, la FINAP a commencé à prendre des crédits auprès des banques. Donc, il a travaillé avec les banques. Alors, il a travaillé avec les banques jusqu'en 1991 ou 93. Où il y a eu des problèmes de pillage. Vous savez qu'il y a eu des mouvements de pillage à cette époque-là,
mm-hmm.
et il y a eu une fermeture des banques. C'est en ce moment-là que les difficultés financières de la FINAP ont commencé, étant donné qu'ils ne pouvaient plus approcher les banques pour pouvoir avoir un crédit pour les fonds de roulement. Donc, voilà un peu, en ce moment-là, comment ça a commencé les crises.
Mm-hmm.
Donc, je crois que jusque-là, ce sont les premiers aspects. Donc, ce sont les origines lointaines, en fait, de la crise à la FINAP. Nous pourrons peut-être parler de ça parce que, dès que cette crise-là est passée, il y a eu plusieurs propositions pour pouvoir réhabiliter l'entreprise, et ainsi de suite. Et jusqu'en 2001, en 2011, là, la crise est descendue vraiment jusqu'au moment où on a produit très peu. Il y a eu même une année, en 97, parce que déjà en 91, comme j'ai dit, en 92, la crise avait commencé. On a essayé d'une façon ou d'une autre d'essayer de rétablir les paramètres pour pouvoir reprendre la production, mais le manque de fonds de roulement a fait que la production n'a fait que baisser, jusqu'à atteindre même la production zéro en 1997.
Mmh. Ce qui fait qu'avec l'absence de production, c'est aussi, il sera très, très difficile pour l'entreprise de pouvoir rembourser les crédits contractés auprès de financiers. Et voilà autant des difficultés. Mais on va revenir à vous pour essayer de voir comment aussi, depuis tout ce temps, quels ont été le mécanisme mis en place pour arriver à relancer l'entreprise. On pourra voir ça avec vous. Après avoir écouté les auditeurs, nous avons Je crois bien, c'est le président de la délégation syndicale des SNAT qui est avec nous dans cet échange. Mais nous allons d'abord donner la parole à Félicien qui est avec nous ici à Kinshasa. Félicien, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, Gère. Bonjour à nos invités. Mm. Bonjour aussi aux auditeurs de la radio Kinshasa.
Oui, Félicien, comment arriver aujourd'hui? Vous avez suivi avec les directeurs d'exploitation toutes les difficultés, d'abord le manque de fonds de roulement. Aujourd'hui, avec la situation des crédits qui ont été contractés auprès des banques et avec les pillages, voilà toutes ces difficultés. Alors, l'idée pour nous dans cet échange, c'est d'arriver à dégager les pistes des solutions pour créer SINAP puisse reprendre, parce que là, 5 ans sans production, plus de 7 ans sans salaire versé, il faut quand même à un certain moment qu'on arrive à relancer cette entreprise nationale. Félicien, qu'est-ce qui doit être fait?
Merci beaucoup, Gilles, pour la parole. Mais c'est vraiment c'est très triste de voir que les agents de la SINAP peuvent faire 5 ans, 7 ans comme ça, sans salaire. Vous imaginez ce qui se passe dans les foyers, quelle vie ils sont en train de mener. Mais c'est une situation qu'on retrouve dans beaucoup d'entreprises et établissements publics dans notre pays. Et je crois que ceux qui nous gouvernent devraient faire le bilan de ces entreprises et pour voir ce qu'ils étaient avant l'arrivée de la révolution africaine et ce qu'ils sont devenus après. Même le pillage de 1993 a été quand même des dégâts, mais des entreprises avaient repris quand même et ça a commencé quand même à fonctionner et à nourrir ceux qui y travaillent. Et le problème que nous avons, c'est pas le problème des faillites de nos entreprises publiques n'est pas un problème de partenariat État-privé comme on le pense. Et ce n'est pas non plus un problème de. Ce n'est même pas un problème de capitaux frais qui doivent venir de privés parce que l'État congolais ne manque pas de moyens pour se faire. C'est plutôt un problème d'homme, un problème de placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est un problème de l'impunité érigée en système de gestion de la chose publique. Parce que les privés à qui on fait confiance, à qui on veut confier la gestion de ces entreprises, ne sont pas des anges. Ce sont des hommes comme nous tous. Mais le problème, c'est que ça comprenait plus. Ne manque pas de moyens ou de l'argent pour lancer des entreprises de difficulté. Quand on voit les trains de vie de ceux qui sont en politique, dans les institutions, on multiplie les services de répression des crimes économiques, on nomme toujours les mêmes personnes et on nous annonce avec pompe qu'on a détourné 15 milliards à gauche, 30 milliards à droite et après ça s'est tenu comme ça, on n'a pas la suite. Nous avons des problèmes très sérieux, nous avons l'argent dans le pays, nous avons un problème d'éthique et de morale, nous avons un problème de la corruption, un problème de bonne gestion. Si on met un peu d'ordre, notre pays est capable de relancer cette entreprise et la SINAP peut continuer à fonctionner comme par le passé.
Merci beaucoup Félicien. Vous avez insisté sur le fait qu'il faut faire un bilan, mais les pouvoirs publics ont la responsabilité de mettre de l'ordre, de nommer des personnes qu'il faut à la place qu'il faut, de combattre la corruption. Et si on met cet ordre avec la volonté, on peut arriver, bien sûr, sans problème, à relancer la SINAP et sans beaucoup de difficultés. Merci Félicien de nous avoir appelé de Kinshasa. Nous avons aussi en ligne le président de la délégation syndicale de SINAP. Monsieur, vous êtes avec nous sur les antennes. Avec vous, vous êtes prêt, bien sûr, qu'il y a autant d'années, la société, on n'a pas pu payer l'argent. Mais alors, au niveau de l'État aujourd'hui, du gouvernement et différents ministères qui sont impliqués dans cette question, quelles sont les démarches qui ont été menées pour arriver à relancer la SINAP aujourd'hui, monsieur le président?
Merci beaucoup pour la parole que vous m'accordez. Il y a d'abord le fait que je n'ai pas approuvé et soutenu l'intervention de tout à l'heure. Parce que l'intervenant a vraiment procédé la situation de l'impunité. Le directeur a parlé des fonds de roulement au départ.
hein, visible et ténèbres pour exprimer les termes que le commun du mortel peut comprendre. Lorsqu'on remet la cimette à l'État congolais, elle est ténèbres. Même si on a procédé par obtenir des crédits à des banques, c'est pour une usine neuve. Elle était en mesure de produire suffisamment, et parfois même avec des excédents. Donc on pouvait engranger des bénéfices au point de se faire un fonds propre. Mais c'est le problème des gestionnaires qui n'ont pas suivi le fait de pouvoir bien gérer la société afin que nous puissions construire un fonds de roulement propre.
Mmh.
Alors, aujourd'hui, il y a des démarches qui ont été menées auprès des ministères, et c'est à ce niveau-là que, finalement, l'État congolais, qui est l'actionnaire propriétaire, a estimé qu'il n'était plus nécessaire de continuer à décaisser de l'argent pour faire fonctionner la finance, autant aller vers le privé. Mais ce que nous déplorons, c'est que la finance appartient à l'État congolais. Nous venons de passer près de 7 ans qu'on a décidé d'ouvrir le capital au privé. Quel genre d'ouverture du capital qui prend 7 ans, dont les négociations n'en finissent pas, et on est toujours au point mort, on retourne rond, alors que les conséquences sociales ne font que s'amasser du jour au jour. Voilà un peu la situation.
Est-ce qu'il y a-t-il eu aujourd'hui des actionnaires, d'autres personnes qui se sont pointées en termes de négociations formelles avec le gouvernement? Parce que vous dites que ça fait 7 ans que le gouvernement a décidé d'ouvrir, bien sûr, les négociations avec d'autres capitaux pour pouvoir soutenir la CINAS. Y a-t-il eu aujourd'hui des partenaires qui se sont pointés et avec des moyens, des capitaux, ou bien la situation reste toujours au point mort en termes d'ouverture de marché, discussion, sans qu'il y ait des propositions concrètes?
En dehors du passif de la Sénat, on nous brandit chaque jour que le passif est trop lourd, L'État congolais, actionnaire propriétaire, pouvait mieux prendre des décisions à l'essence et trouver une solution sur le passif. Pour revenir au repreneur, il y a d'abord la société Aouchi qu'on a cité qui a quelques actions là-bas. À un certain moment, les minoritaires avaient proposé au gouvernement qu'on leur donne des actions. C'était déjà une des solutions avant d'aller sur le plan extérieur. Les minoritaires avaient proposé qu'on leur donne beaucoup plus d'actions de manière à ce qu'ils puissent gérer. Parce que pendant qu'ils étaient là, les gestionnaires en place géraient déjà mal. Ils ont observé au gouvernement, mais vous continuez à nommer les mandataires là-bas alors qu'ils gèrent mal. Donnez-nous beaucoup plus d'actions, comme ça nous allons au moins gérer ensemble avec vous. Mais l'État avait estimé que les Raoji sont des commerçants, moi je préfère prendre des cimentiers. On en passe. Il va maintenant lancer un appel d'offres. Ceux qui s'intéressent à la finance sont très nombreux parce qu'au premier appel d'offres, ils sont venus en grand nombre déjà. Mais ce sont les critères qui ont fait qu'on puisse retenir la page à l'époque. Mais les solutionnaires étaient beaucoup nombreux et ils sont encore intéressés jusqu'à ces jours. Mais il y a eu des critères pour lesquels on a retenu la page. Ils ont négocié de 2008 à 2011, ça n'a pas abouti. Lorsqu'ils vont lancer un deuxième appel d'offres, il y en a encore beaucoup de solutionnaires qui sont venus. Mais on a retenu suivant les critères, non Fatimambola. Et c'est là où, depuis 2011 jusqu'à ce jour, on continue les négociations. Donc, vous parlez des solutionnaires, des potentiels repreneurs. Ils sont légion, ils sont nombreux. Et ce sont les critères que le gouvernement fixe qui font que soit on désigne un, et c'est avec lui qu'on négocie. Mais il y en a beaucoup de prétendants qui veulent venir travailler à la finance.
Mais vous avez évoqué tout à l'heure la question des passifs. Ça représente quoi aujourd'hui si les gens ils ont perdu du passif de la finance, ce qui fait engloutir autant des capitaux, si on voudrait bien les injecter pour relancer la société? Ça représente quoi aujourd'hui le passif de la finance?
Parce que l'État propriétaire, c'est lui qui brandit la raison du passif.
Mm-hmm.
Ils ont tous les chiffres pour lesquels moi je ne me permets pas d'intervenir parce que ce sont ceux qui ont les chiffres. Mais néanmoins, je sais que l'État congolais, qui est propriétaire, a l'autorité, a le pouvoir décider sur ces passifs-là, il en a l'autorité et le pouvoir.
Voilà, merci beaucoup, monsieur le président de la délégation syndicale. Mais vous souhaitez aujourd'hui que l'État puisse trouver des solutions, que la société soit relancée et qu'autant de personnes et la charge sociale, bien sûr, hein, Félicien venait de le dire tout à l'heure ici à Kinshasa, que 7 ans sans que les gens aient été payés, c'est difficile. Mais alors, comment peut-on payer quand on ne parvient pas à produire? Voilà autant de difficultés. Alors, nous allons revenir. Je crois qu'on avait perdu tout à l'heure notre invité, monsieur Djadjako. Il est directeur d'exploitation de la CINAT qui intervient en direct, bien sûr, de Kinshasa. Je crois bien, nous l'avons maintenant avec nous en direct et qui pourra placer un mot par rapport à ce que venait de dire le président de la délégation syndicale sur les difficultés, les soucis, c'est de voir l'État congolais pouvoir aujourd'hui mettre des capitaux ou soit ouvrir ses marchés aux privés qui peuvent y injecter des capitaux et permettre à la société d'être relancée. 081 890 6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette émission.
Radio Okapi fête les 70 ans des Nations Unies à Matadi. Les auditeurs de la province du Congo central sont à l'honneur pour participer aux deux grandes émissions Okapi Service et Parole aux auditeurs. Nous revenons à Michel qui est à Matadi. Voilà, Michel, vous avez la parole. C'est mercredi 25 et jeudi 26 novembre 2015, de 9h à 12h, en direct du Place Hôtel des Diables.
Beto, la leader d'opinion, Beto, la crête politique, le Kuna Bloma, Beto, Kuna Mingi, Kanga, et Beto, Kuna Mingi, Kanga, Kuna Mingi,
Beto, Kuna Mingi, Bacata, Bamama, Kanga, Kupeta, Ndina, Ndina, Manaka, Yangadio, Kati, Yadio, Ngema.
Au centre des échanges, les activités du port de Matadi, la santé mentale, les fonds médicaments, la vie étudiantine, en un mot, le développement social de la province. Au Capi Service et Parole aux auditeurs en direct de Matadi avec Jeudi Daniel Kachama et J.R. Mungemo.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Bien sûr, c'est la semaine prochaine que toutes les deux équipes seront à Matadi pour la production de ces émissions spéciales. Adrien, vous êtes à Kamanga, dans la province du Kasaï central. Bonjour Adrien.
Bonjour Thierry Lamenji, bonjour à tous les amis auditeurs.
On vous écoute Adrien.
Merci Thierry de la parole que vous m'accordez. Je pense que la situation de la CINAT aujourd'hui, c'est presque la même situation que traverse toutes les entreprises de l'État. C'est-à-dire que la CINAT n'a pas aussi échappé. Et au jour d'aujourd'hui, lorsque nous venons de suivre, donc l'un des délégués, il vous a dit clairement que le passif est vraiment trop lourd par rapport à l'actif. Et lorsque la situation d'une entreprise se présente de cette manière, il n'y a pas vraiment à errer à gauche, à droite. Il faut automatiquement qu'on puisse déclarer cette entreprise en faillite pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'il faut maintenant gérer les conséquences juridiques. Mais dans les cas sous examen, moi je pense que c'est cette difficulté-là à laquelle le gouvernement congolais, qui est le patron de cette entreprise, se trouve. Parce que le gouvernement se pose la question, quel est le mécanisme à faire pour essayer de relancer les activités de la CINAT? Moi, je pense qu'il serait mieux qu'on puisse, c'est quand même l'occasion, par rapport à la proposition qui était faite autrefois à l'ex-ONATRA, moi, je pense que l'opportunité est accordée maintenant au gouvernement congolais d'injecter maintenant le privé par rapport à la CINAT. Parce que le gouvernement seul ne saura pas payer les 7 ans d'arriéré de salaire de tous ses agents. Mais s'il y a l'intervention des privés, les privés peuvent se mettre autour d'une table avec ces agents-là pour voir ce qu'il faut payer et ce qu'il ne faut pas payer. Et aussi, le privé, Pierrot, je pense qu'ils sont aussi bien placés parce qu'il faut mettre leurs capitaux en jeu et il y aura des accords qui seront signés entre le privé, le gouvernement et les agents de la CINAT. Sans cela, je vois très mal comment est-ce que le gouvernement peut faire face à cela parce que nous voyons certaines entreprises, entre autres la SNCC, pour ne pas citer les autres, qui se retrouvent dans cette même situation. Il y a même des financements de la Banque mondiale, mais ces financements-là ne résolvent toujours pas les problèmes. Mais moi, je pense que la solution à cela, Pierrot, passe par d'injecter aussi les privés pour prendre la relève de la part du gouvernement.
Merci beaucoup, Adrien. Mais vous avez déjà évoqué en début de votre intervention la possibilité de la déclaration de la faillite. Comme ça, on pourra gérer les conséquences juridiques. Mais du moins, ce qui est plus efficace aujourd'hui, c'est d'ouvrir la société aux capitaux privés. Comme ça, ils pourront se mettre ensemble avec les travailleurs pour dégager les pistes et solutions, considérer ce qui est urgent, ce qui est nécessaire. Sinon, avec l'État seul, vous ne voyez pas comment on peut s'en sortir et pouvoir régler autant d'années de salaires non versés. Merci beaucoup, Adrien, de nous avoir appelé de Kananga. Nous revenons à vous, Monsieur Djadja Akoy, directeur d'exploitation de la SINAC. Vous avez suivi les interventions des Féliciens, les interventions du président de la délégation syndicale et Adrien de Kananga. Et là, nous sommes dans le mécanisme qui ont été déjà initiés pour pouvoir relancer la société, mais aussi dire un mot par rapport à leurs propositions et leurs pistes de solutions. On vous écoute.
Bravo. J'aimerais peut-être donner une petite historique de cette histoire. Parce que, en fait, le tour est parti en 2008, quand la situation de la SINAC devenait de plus en plus critique. Il y a eu à l'Assemblée nationale une cellule qui avait été créée pour étudier le problème ciment en RDC. Et sur base du rapport que l'Assemblée nationale a donné, il y a eu maintenant une loi qui a été promulguée où les Congolais se désengageaient des entreprises publiques. Je crois que c'est, si je m'abuse, la loi 08008 du 7 juillet 2008, portant disposition générale relative au désengagement de l'État des entreprises du portefeuille.
Oui.
Oui. Alors, à partir de cela, l'État congolais, qui est en fait actionnaire majoritaire, qui est en fait prioritaire de la SINAC, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un appel d'offres, justement pour amener les privés dans la gestion de la SINAC, pour la relance de la SINAC. Les premiers appels d'offres ont été lancés en 2008, sous la direction du COPIREP, l'État congolais a lancé un appel d'offres. Et lors de cet appel d'offres, la firme française, la Farge, avait été retenue. Et en ce moment-là, nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé. Il y a eu des négociations sur négociations. Nous ne faisions qu'attendre. Et en 2010 ou début 2010, je crois, nous avons appris que les négociations avaient capoté. En 2011, le gouvernement a lancé d'autres appels d'offres. Donc tout ça, c'est dans le but de relancer les activités de la SINAC, c'est-à-dire faire intervenir les privés qui amèneraient des capitaux frais. Qu'est-ce qui s'est passé? On a lancé des appels d'offres, il y a eu des souscripteurs, et lors de l'analyse, des analyses de ces appels d'offres, la firme Nova Simangola, comme a dit le président de la délégation syndicale, avait été retenue, et il y a eu des négociations. Donc en fait, c'est depuis 2011 que ces négociations ont commencé avec la firme Nova Simangola. Bon, nous, nous sommes de l'entreprise, nous ne savons pas ce qui se passe au niveau politique. C'est-à-dire que les négociations, chaque fois, nous sommes en train de suivre, parfois, on nous demande certains renseignements techniques pour l'usine ici, nous les donnons. Nous avons vu des auditeurs du gouvernement congolais, la CPCC est venue ici. Et nous avons vu les auditeurs Nova Simangola, qui sont venus ici pour demander tous les renseignements possibles. Nous avons donné tous ces renseignements au niveau de l'usine où nous nous trouvons.
Mm-hmm.
Alors, maintenant, ce qui se passe, c'est que tout ça, ça dure pendant trop longtemps. Pourquoi? Parce que pendant tout ce temps-là, la SINAC ne peut rien faire. La SINAC ne peut pas chercher d'autres moyens pour pouvoir relancer l'entreprise parce que le tout est au niveau de l'État. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? On parle du passif, bon, il y a eu un passif effectivement, mais maintenant, le passif continue à augmenter. Pourquoi? Parce que une usine comme une cimenterie telle que nous l'avons ici, c'est pas une boutique où on veut fermer et dire bon, on reviendra dans une année pour réouvrir. Non. Nous avons tout ce qui a été investi, c'est toutes les machines.
Mm-hmm.
Si bien ça signifie que les travailleurs viennent tous les jours. Tout ça, c'est pour sécuriser tout cet outil de travail. Donc, ça, c'est pour ça qu'ils viennent. Et ils ne sont pas payés. Mais ils viennent quand même tous les jours. Donc, c'est le problème. Maintenant, le problème qui se pose, nous ne savons pas pourquoi toutes ces négociations qui ont commencé en 2011 jusqu'en 2014 s'apprennent. Ça se règle au niveau du gouvernement et de l'État congolais qui est propriétaire de la SINA. Mais nous qui sommes ici, qui dirigeons ces agents qui sont avec nous ici, nous devenons de plus en plus inquiets, dans ce sens que la discipline même devient aléatoire. Et tout ce que nous avons comme problèmes sociaux, c'est difficile de les gérer. Alors, ce que nous demandons maintenant, c'est comme les travailleurs demandent. Bon, moi aussi, évidemment, on m'appelle employeur peut-être, mais je suis travailleur, j'ai un contrat de travail avec la SINA. Alors, il faudrait absolument qu'on nous dise exactement ce qui se passe, parce que avec la FAGE, c'était comme ça. On a été là, on attendait les négociations, tout était repris, en dernière minute, ça a capoté. Maintenant, avec Nova Simangola, nous risquons de vivre le même épisode.
Oui, mais monsieur Djadjakoy, vous avez bien expliqué les difficultés que vous rencontrez sur place, mais quand on regarde aussi dans l'histoire, les offres qui ont été présentées, que ce soit par la firme angolaise, que ce soit aussi l'autre fois, et il y a la compagnie sud-africaine Portland qui avait été retenue, mais qui a posé des conditions en estimant que c'était au gouvernement de pouvoir régler la question de ses passifs, des dettes, réclamations et toutes les autres choses. Alors, si on doit continuer dans ces cas, peut-être c'est la question que les copieurs pourront nous répondre prochainement si jamais ils acceptent de pouvoir intervenir. Et si toutes les sociétés qui présentent les qui se pointent posent comme comme condition que les vendeurs, que le gouvernement congolais puisse prendre la charge sur les passifs, je crois que ça sera difficile dans les conditions actuelles que les gouvernements s'occupent des passifs. Et là, on risque encore d'attendre longtemps, monsieur Djadjakoy.
Oui, là, j'aimerais vous dire tout de suite que le gouvernement a fait un effort, parce que nous avions un passif vis-à-vis des entreprises publiques. Le gouvernement a fait un effort, il a annulé toutes ces dettes-là. Mm-hmm. Sauf peut-être pour la SNEL et la Régie des Eaux, le gouvernement a annulé une partie de la dette et l'autre partie l'a prise en charge. Il a quand même fait un effort, il a fait un pas.
Mm-hmm.
Et le gouvernement a même demandé pour ce qui est des arriérés de salaire des travailleurs. Le gouvernement a demandé si, du côté travailleur, les travailleurs peuvent faire un effort aussi pour faire une décote de leurs arriérés pour essayer d'être à l'aise lors des discussions avec son partenaire Nova Simangola. Les travailleurs, le président de la délégation sénégale pourra peut-être confirmer, mais je sais que les travailleurs avaient accepté, ils avaient accepté une décote de 50%. De leurs arriérés de salaire.
Mm-hmm.
Donc, de ce côté-là, le gouvernement avait fait déjà un effort. Toutes les conditions presque que le partenaire Nova Simangola avait posées ont été, en fait, réglées par l'État congolais. Ça, c'est ce que je sais.
Mm-hmm.
Alors,
voilà.
Maintenant, oui, je ne sais pas maintenant qu'est-ce qui se passe exactement pour
et là, c'est la question
les...
que...
Oui.
Voilà, la Radio Capi n'a pas, l'autre fois, la Radio Capi a eu des difficultés pour pouvoir joindre les services publics concernés, mais on pourra aussi revoir, soit avec le ministère au niveau, le ministère de l'Industrie, avec les copyrights, on pourra avoir des éléments, des réponses. Mais en attendant, nous allons écouter Valérie, qui est à Kindou, dans la province de Maniema. Valérie, bonjour, merci de nous avoir contacté pour intervenir dans cette émission, Valérie. On vous écoute.
Oui, bonjour, merci beaucoup pour la parole. Je salue tous nos invités, ainsi que les auditeurs de la parole aux auditeurs. Bon, ok. Monsieur JR, à suivre de près la situation de nos amis des SINAT, je suis très écœuré de constater que les compatriotes ont souffert ou continuent de souffrir depuis 7 ans, malgré toutes les prestations qui n'ont toujours pas abouti.
Mm-hmm.
Et là, je dis ceci pour moi, au regard de l'expérience que nous avons enregistrée avec la Fisaraille, avec les tentatives de la privatisation de l'ONACRA et autres, il est vrai que je dis aussi bien au directeur qu'à notre président de la direction syndicale que l'option de la privatisation s'avère déjà rigoureuse, nécessaire, quand bien même il y aurait des prix à payer. Les travailleurs devraient être pour la direction syndicale. C'est peut-être cette solution, d'autant plus qu'en dehors de ça, il n'y a pas d'autre solution.
Merci.
Je regrette quand même la lenteur avec laquelle le processus est en train d'évoluer, parce qu'au final, on dirait que la liquidation se fera avec un outil beaucoup plus minoré, que plus les années passent, et que les machines ne travaillent pas, la valeur qu'elles ont aujourd'hui ne sera pas la même qu'après deux ou trois ans. Donc la valeur même de l'usine est en train de se dégrader. Là, je demanderai quand même à notre gouvernement d'accélérer le processus, sinon ça ne sera pas profitable du côté gouvernement. Et je voudrais aussi, à mon avis, qu'à l'avenir, notre État ne puisse pas être actionnaire majoritaire dans les entreprises, d'autant plus que nous avons eu des expériences. Même les pays tels que les États-Unis se sont développés avec les initiatives privées. Il serait bien que l'État se retrouve dans les entreprises, mais toujours comme minoritaire, afin de laisser la gestion aux autres, d'une sorte de privatisation beaucoup plus élégante.
Merci beaucoup.
Notre ami de la délégation syndicale, je voudrais l'encourager qu'il puisse vraiment conscientiser les travailleurs afin d'accepter la possibilité de négocier leurs arriérés plutôt que d'être beaucoup plus rigoureux, mais alors de manière tout à fait sage, sans pour autant brader les droits, parce qu'il se passe d'autres réalités que nous devons tenir, dont devons tenir compte et qui doivent les inspirer. Prenons le cas de la société comme LAC. On n'a jamais résilié les contrats des travailleurs, ça fait je ne sais autant d'années, c'est les passifs sociaux qui s'agissent. Et lors du paiement, l'État vous dira, ils n'ont pas produit, on ne va pas pourquoi payer, les passifs sont alourdis, si bien que si la délégation syndicale n'est pas pragmatique, après ça devient un problème. Nous avons connu ce même problème avec les trois banques de l'État qui étaient liquidées, à savoir la BCA, la NBK et la BCCP. Évidemment aussi, on a vu les problèmes du passif social commencent à créer des problèmes, à telle enseigne qu'à un moment donné, les délégations syndicales qui ne sont pas pragmatiques peuvent faire passer l'occasion en se disant que le passif social est très élevé, ainsi de suite. Donc, je voulais me résumer en disant que du côté du gouvernement, une célérité s'avère nécessaire, au mieux de conserver la valeur de l'outil et aussi de l'entreprise, pourquoi pas la part de l'État, parce que si l'État aura vendu moins cher, plus ses actions seront minorisées. Et du côté de la délégation syndicale, il y a aussi ce pragmatisme qui est tout à fait nécessaire afin de créer au moins une politique, je dirais, qui sera beaucoup plus apaisée des parts et d'autres. Voilà ma contribution.
Merci beaucoup, Valérie. Je crois que cette question, vraiment, elle est d'une portée nationale. Pourquoi pas aussi dans ces productions spéciales à Matadi, hein, les habitants qui vivent les bénéfices directs de l'exploitation sur place, parce qu'il y a beaucoup de familles qui sont concernées par le travail de la CINEF. Ça peut être évoqué ensemble avec Jérôme Guémo qui sera en déplacement à Matadi la semaine prochaine. Le point relatif au développement de la province, qu'est-ce qui doit être fait localement pour encourager la population à pouvoir travailler, comment les gens peuvent lutter contre la pauvreté. Je crois une de voix pour lutter contre la pauvreté dans le milieu, c'est la relance de ces activités. Je crois que Jérôme Ndiobo sera avec vous à Matadi la semaine prochaine. Et pour le moment, Piero El Meji est devant ses micros pour cette émission consacrée à la relance de la CINAF. Parce que tout à l'heure, on a évoqué la délégation syndicale. Nous avons encore M. Bouenet qui est le vice-président. Mamidi était avec nous, le président, et les directeurs d'exploitation a posé la question. Et aussi, M. Valérie est revenu sur le pragmatisme de la délégation syndicale. On va écouter M. Bouenet. Vous êtes avec nous dans cet échange. Vous avez suivi les uns et les autres, mais est-ce qu'aujourd'hui, dans les discussions qui ont été engagées entre la délégation syndicale avec la CINAT, l'État congolais, y a-t-il moyen d'avoir des concessions qui peuvent amener les potentiels privés qui peuvent apporter leurs capitaux dans la société, de ne pas, bien sûr, décliner l'offre à cause des passifs aujourd'hui de la société, surtout en ce qui concerne les arriérés des salaires. Monsieur Bouenet, bonjour. Monsieur Bouenet, vous êtes avec nous, bonjour.
Je vous remercie pour la parole.
On vous écoute.
Comme l'a dit mon président, je vous dirai du côté social, nous sommes prêts, comme nous avons cédé notre décote de 50%, à l'État pour que nous puissions avoir la relance de la finance. Nous demandons à l'État de relancer l'entreprise et à payer même les 50% que nous avons demandé de décote de nos arriérés. Notre but primordial, c'est de relancer la finale. Nous voulons trouver que la finale soit en marche. Les problèmes que nous cherchons, c'est les problèmes sociaux. Nous sommes tourmentés par beaucoup de cas de décès ici, plus de 30 morts, comme le président l'a dit. Les enfants ne fréquentent pas, les gens sont délogés des maisons. Nous demandons au gouvernement, qui est notre patron, de nous accorder les 3 mois de salaire que nous avons demandé. Et puis ces 3 mois, comme il avait accordé à la MIBA et à la NCC, nous tous, nous sommes des Congolais. Nous demandons qu'il ait pitié de nous, les travailleurs de la finale, pour nous accorder ces 3 mois pour faire vivre nos familles.
Alors, mais est-ce que dans le directeur d'exploitation tout à l'heure s'est posé des questions pour savoir à quel niveau nous en sommes aujourd'hui avec les discussions entre les gouvernements et la firme Nova Simangola. Mais est-ce que vous, les syndicalistes, vous avez eu quand même à vous approcher de l'autorité politique pour savoir, ça prend quand même du temps depuis 2000. Je crois bien 2010, quand même c'est beaucoup de temps, 2011, autant d'années, comment on peut discuter autant d'années? N'y a-t-il pas quand même une réponse qui vous a été donnée, que ce soit par les copyrights, que ce soit par le gouvernement sur ces discussions avec la firme et qui voudrait bien reprendre la Sénat, M. Bouéné?
Nous avons eu des correspondances, nous avons fait des démarches auprès du portefeuille, de la primature, et nous avons eu même des réponses de la primature. Il nous avait dit que d'ici le mois de juillet, nous allons terminer et conclure des négociations avec Nova Simangola. Mais jusqu'à présent, nous sommes en 2015, et nos négociations n'ont jamais eu lieu. Nous demandons au gouvernement d'avoir la bonne volonté pour terminer ces négociations entre la firme Nova Simangola et le gouvernement congolais.
Et c'est de cette façon qu'on peut sauver des centaines de familles qui sont concernées par ces arriérés de ces salaires non versés. Merci beaucoup, Monsieur Bouéné. Nous allons dans le Congo central. Rédi, vous êtes à Lozi. Merci de vous être joint à nous pour cet échange. Bonjour, Rédi.
Oui, bonjour. C'est Freddy Matundu à Lozi. Freddy Matundu à Lozi.
Voilà, c'est Freddy Matundu. Vous avez suivi les uns et les autres. Alors, concrètement, par quel mécanisme on peut arriver aujourd'hui à s'en sortir pour sauver la société, mais à côté, sauver aussi des centaines de familles et des vies?
Merci, Pierrot, pour la parole. Je salue les invités, tous les auditeurs de la radio Capi. C'est triste, M. Pierrot, pour la situation qui se passe actuellement, où longtemps la cimenterie de Kimpeche. C'est une situation qui est nationale, où l'État congolais devrait s'assaisir. Parce que moi, je ne pense pas que, depuis que son Excellence, le Premier ministre est au pouvoir, il a déjà connu même 1 mois de retard dans le paiement. Je ne le pense pas. Et dans le budget, il y a une partie qui est réservée aux événements surnaturels, c'est-à-dire les sinistres, les pluies torrentielles et tout consort. Pourquoi ne pas bouger dans cette partie du budget pour payer ne fût-ce qu'une partie des retards des agents de la cimenterie de Lukala? Alors, ce qui nous dérange souvent, ou ce qui dérange souvent notre État, je pense qu'en signant les contrats, il y a même des ministres qui imposent une opération retour. C'est-à-dire quoi? Ok, moi je vous donne le marché, mais retour, moi qu'est-ce que j'ai gagné? Comme un ministre qui a dit, où est mon intérêt là-dedans? Et la firme cimenterie de Kimpe, c'est une association nationale, c'est une société nationale. Mais tout à l'heure, il n'y a pas si longtemps, la province du Bas-Congo a signé un contrat, je ne sais pas si moi avec elle signé, pour la construction d'une nouvelle cimenterie à l'entrée de la route Songololo qui amène vers chez moi à Lozi. Mais pourquoi pas l'État congolais n'a pas dit d'abord à la province du Congo central, sinon, comme vous avez les moyens, comme il y a une entreprise qui arrive, s'il y a moyen que nous relançons d'abord la cimenterie de Kimpeche, et pour revoir le pourcentage des répartitions entre la province et le gouvernement central. C'est une des solutions aussi pour sauver. Parce que relancer les activités partout, faire construire de nouvelles entreprises, aussi longtemps, il y a des anciennes entreprises, il y a des anciennes sociétés, il y a des anciennes cimenteries qui en souffrent. 7 ans d'impayement, M. Pierrot, ça c'est inconcevable, c'est inhumain. C'est inhumain. Il y a des enfants qui meurent, il y a même des travailleurs qui ont léché leur salaire, qui ont léché leur famille à cause de cette situation. Vous savez, quand la morale n'est pas bonne, c'est difficile de travailler, c'est difficile même de s'occuper de la famille. Moi, je pense que l'État a tout l'intérêt. C'est maximum de volonté politique. Moi, j'ai toujours condamné ceux qui disent que l'État, comme on n'a pas de moyens. Non, j'y ai.
Nous avons une richesse immense, mais je pense que nous n'avons pas la volonté politique. Nous n'avons pas l'amour de cette patrie congolaise que nos ancêtres, que Lumumba, que Kassavubu nous a laissé. C'est pour ça que nous sommes en train de... Tout le monde qui arrive à la tête de l'État, c'est pour d'abord ses intérêts personnels. La cimenterie de l'État est une affaire nationale où l'État congolais doit s'en saisir. C'est maintenant la volonté, les partenaires privés ou étrangers sont là. C'est à l'État congolais de mettre les poings sur les i et de marcher deux pieds sur la terre pour sauver cet homme. C'est pas trop tard.
Merci. Merci beaucoup, Freddy. Vous dites que c'est pas trop tard. Mais la question, c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une nouvelle cimenterie, un contrat signé entre le gouvernement provincial. Pourquoi le capital pouvait être apporté dans la CINAS pour relancer? Ça peut quand même parvenir, arriver à sauver de milliers de vies, comme je le disais tout à l'heure, quitte à savoir comment se partager les recettes entre ces capitaux. Mais tout se résume aussi dans la volonté politique. Au début de l'émission, notre compatriote Félicien venait de le dire que le problème aujourd'hui, c'est d'avoir tout simplement la volonté et les initiatives. On peut arriver à relancer la CINAS sans problème et résoudre quand même la question des travailleurs. C'est pourquoi les travailleurs ont souhaité même... ne fût-ce que toucher à 3 mois de salaire pour essayer de sauver des vies et de sauver des familles, même dans les fonds, au niveau des lignes budgétaires, on peut avoir des marges pour pouvoir trouver la solution par rapport à ces travailleurs et quitte à voir comment accélérer les discussions avec d'autres entrepreneurs pour sauver la société. Merci beaucoup, Freddy, de nous avoir appelé des Lozi dans la province de Congo central. Le 081-890-731, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ces magazines consacrés à la relance de la CINAS.
Radio Okapi 7, les 70 ans des Nations Unies à Matadi. Les auditeurs de la province du Congo central sont à l'honneur pour participer aux deux grandes émissions Okapi Service et Paroles aux auditeurs. Nous retenons Michel qui est à Matadi. Voilà, Michel, vous avez la parole. Les mercredis 25 et jeudi 26 novembre 2015, de 9h à 12h, en direct du plateau hôtel Léguia.
Beto, ma lumière d'opinion, Beto, ma chère politique, Bokina Bouloma, Beto, Kouza Mingi, Tangla, et Dame Pesa, Beto, Bilwa, Kouya, Yukanga.
Beto, Kouza Mingi, Bachacha, Bama, Matama, Koupeta, Ndina, Beto, Nama, Naka, Yaya, Radio, Kapi, Radio, Ngema.
Au centre des échanges, les activités du port de Matadi, la santé mentale, les fonds médicaments, la vie et sudantine, en un mot, le développement social de la province. Au Okapi Service et Paroles aux auditeurs en direct de Matadi avec Jeudi Daniel Kachama et Pierre Longuebo.
Paroles aux auditeurs.
Voilà ceux qui sont à Sekebanza, Sonabata, pourquoi pas à Gidinga. Vous êtes invité dans Paroles aux auditeurs spécial ainsi que au Okapi Service. Vous tous qui êtes dans les contrées de la province de Congo central. Olivier, vous êtes accueilli. Gardez la ligne de temps d'écouter Monsieur Djadja Koï. Vous avez suivi encore les uns et les autres. Quel mot vous pouvez placer par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, Monsieur Djadja Koï?
Merci, monsieur. Je voudrais dire une chose. C'est que tout ce que les auditeurs ont dit, là, c'est quelque chose qui est déjà fait. C'est l'État congolais qui avait lancé des appels d'offres parce qu'il savait qu'il devait se désengager de la CINAS. Il est actionnaire majoritaire à 91,17%.
Mm-hmm.
Il devait en principe rétrocéder, je crois, 58% à Nova Angola. Donc, en fait, cette démarche-là est faite. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est la lenteur. C'est cette lenteur qui dure des années qui fait que maintenant la misère devient indescriptible. Donc en fait, la chose est lancée. Mais pourquoi elle traîne? C'est ça le point d'interrogation qu'il y a dans nos têtes. Alors, nous qui sommes ici, nous qui dirigeons tout le personnel qui est ici, ça devient un calvaire. Mais nous pensons quand même qu'avec toutes les promesses qui ont été faites, toute la correspondance qui se fait régulièrement, la délégation syndicale, fait ses démarches en tant qu'institution, en fait, dans l'entreprise, mais l'employeur, nous avons un mandataire qui est en contact avec son mandant. Et les comptes sont permanents, mais ça ne fait que
traîner, c'est ça qui pose problème.
Mm-hmm.
Donc nous aimerions quand même qu'on puisse penser, parce que la CIMAT existe, les machines sont là. Il n'y a qu'une petite invitation à faire. Parce que pour le moment, vous savez ce qui veut dire que, si je vous dis par exemple que nous faisons des concassés, nous faisons de la poudre calcaire pour essayer que les travailleurs qu'on puisse survivre de plus que ça, mais les machines sont là. Soyez là. Comment on va pouvoir laisser une entreprise qui est là, pour laquelle l'État congolais a englouti de l'argent, et elle est là? Parce que pour le conseil cimentier aujourd'hui, ça demande 200 millions, 300 millions, voire même 4 millions. C'est pour réhabiliter la chaîne. Mais c'est peut-être le millième de ça.
Mm-hmm.
Alors, s'il y a des repreneurs qui sont là, qui peuvent reprendre, moi je pense que ça serait une bonne chose. Parce que
merci.
Toutes les infrastructures sont là. Mm-hmm. La carrière est là. Tout est là. Alors,
ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est accélérer les discussions pour que les repreneurs puissent entrer en danse. On pourra, comme je le disais tout à l'heure, avoir des explications auprès du gouvernement, soit de copier. Mais on va écouter rapidement les deux derniers intervenants avant de revenir à vous pour la conclusion. Olivier, vous êtes à Kikwit dans la province de Kwilu. En une minute, Olivier, quels sont les mécanismes aujourd'hui pour arriver quand même à sauver cette entreprise et aussi sauver des milliers de vies qui dépendent bien sûr de cette exploitation?
Oui, Thiro, merci. Mais avant de donner le mécanisme, j'aimerais d'abord souligner une chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire l'économie sans respecter les lois de l'économie. Ça, c'est le premier problème que nous devons résoudre. Le directeur d'exploitation a donné les bases sur lesquelles l'entreprise a démarré. Ce sont des bases qui ne respectent pas les lois économiques. Et ce n'est pas normal avec les millions d'experts en économie que nous avons dans ce pays. Alors, vous venez de remarquer aussi que l'on des lois qui résolvent notre problème, dont j'allais parler, mais ça aussi c'est une aberration. Donc, on ne doit pas continuer comme ça. Alors, si nous devons résoudre ce problème, je crois qu'il y a une première chose, vous en avez parlé longuement, la volonté politique. Parce que c'est ça qui fera que nous fonctionnons les choses. La privatisation, personnellement, je ne l'appuie pas parce que la privatisation ne peut donner de bons résultats que dans un pays où l'État est suffisamment fort. Donc, nous sommes dans un État qui est dominé par des rapaces. Donc, je ne veux pas privatiser toutes les entreprises parce que les bénéfices n'iront que dans les poches des dirigeants. Et il y a certains qui pourront avoir la possibilité d'avoir des actions avec leurs amis de l'extérieur.
Mmh.
Alors vous comprenez qu'aujourd'hui, relancer la CIMAT va être difficile, pas impossible, mais difficile parce qu'il y a la compétitivité. Le ciment de l'extérieur entre dans le pays et on a libéralisé il y a 7 ans, il y a quelques années, le marché du ciment. Et donc, ce sont des choses dont il faut tenir compte dans la relance de l'entreprise. Mais la première chose, c'est d'abord la volonté. Et on puisse demander aux syndicalistes d'être pragmatiques. L'État a des devoirs à remplir.
Donc, il faut qu'il
demander le pragmatisme parce que l'État nous demande aussi de laisser l'État faire n'importe quoi pour finalement devenir.
Merci beaucoup, Olivier. Vous avez insisté sur la compétitivité. Toutes les questions doivent être prises en compte dans les discussions. Vous ne soutenez pas la privatisation, mais il faut un problème de volonté politique en tenant compte des bases de l'économie, bien sûr, pour arriver à résoudre la question. On va écouter rapidement le dernier intervenant, M. Mbaya. Vous êtes aussi de la CINAT, je crois bien, de la comptabilité. Vous avez suivi les uns et les autres. En un mot, qu'est-ce qui peut être fait pour qu'on arrive vraiment quand même à trouver des solutions plus pratiques à cette question rapidement, M. Mbaya?
Ah, bonjour, pour m'avoir accordé la parole. Bon, les autres intervenants ont parlé, abordé presque tous les points. Moi, j'insiste sur le préalable qu'avait posé non Sachimangola pour réaliser, concrétiser les négociations. Le gouvernement a tout fait. Et il a participé à plusieurs commissions. J'ai fait partie de la commission de négociation avec NOPA.
Mm-hmm.
Mais je m'étonne que. Je sens comme si du côté de Nova, il n'y a pas respect de la fête de route. Parce que nous sommes réunis en décembre 2014. Il était question qu'on puisse. On a traité tout ce qui est juridique. On a évalué, on a fait 2000 points. Il était sur, on a fait l'évaluation de tous les classes. Mais il ne restait qu'on puisse spécifier les dettes par les deux cabinets d'audit.
Mm-hmm.
Le cabinet du gouvernement a terminé, a déposé dans le délai, au plus tard au mois de mars, le cabinet NFYang pour le compte de Nova a terminé aussi, il l'a envoyé à Paris au mois de mai, tout ça. On attend. Parce que dans la feuille de route tracée au mois de décembre, les pétitions, au plus tard au mois de juin, ont été concrétisées.
Et là, vous êtes revenu comme les autres, M. Mbaya, vous avez participé aux discussions. Alors, pour vous, c'est plus du côté de Nova qui ça traîne. Alors, tout le monde se plaint de la lenteur. On pourra voir ensemble comment la question peut être résolue, que ce soit entre le pouvoir central et Nova. Merci quand même pour l'éclairage. Dommage qu'on ne sera pas plus loin. On revient à vous rapidement, Monsieur Djadjakoy, parce que là, celui les uns et les autres, le souci a été exprimé. En 10 secondes, quel est votre mot pour la conclusion de cet échange rapidement?
Ok, merci. En un mot, je dirais ceci. Il y a des préoccupations de part et d'autre pour dire qu'on ne peut pas privatiser, mais malheureusement, il y a une loi. Il y a une loi qui demande à l'État des engagés de l'État des entreprises du portefeuille.
Mm-hmm.
Ça, c'est la première chose. Mais il se fait aussi que,
merci,
en fait, sous cette loi-là, la FNAC devient comme une cobaye. Parce que la première entreprise d'économie mixte.
C'est victime de... voilà. Dommage, donc, merci.
Tout ce que nous pouvons dire maintenant, nous, merci, attendons, parce que tout est sur les rails, mais tout ça traîne, c'est tout ce que nous attendons.
Voilà, c'est ça, c'est qu'il faudrait attendre. Merci beaucoup, monsieur Djadjakoy, directeur d'exploitation des racinates. Dommage qu'on ne saura pas aller plus loin. Merci à l'équipe qui nous aide à produire cette émission, hein, pour les auditeurs de Matadi. Parole aux auditeurs et aux capis services qui seront chez vous la semaine prochaine. Pour le moment, il reste à nous vous souhaiter un agréable week-end en compagnie des Radio Capi. Au revoir.